Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Pour la première fois, les acteurs culturels du département ont manifesté à Bourg-en-Bresse. Retour sur ce rassemblement.
Et un peu d'évasion, Quentin, un jeune bugiste, nous fait visiter la base antarctique Concordia, où il travaille en ce moment.
Une cabine de téléconsultation ouvre ce 1er mars à Bourg-en-Bresse. Une première. On vous explique son fonctionnement.
Et tout de suite, c'est l'actualité en bref.
Bourg, en bref.
Yaya, guinéen de 20 ans sans papier, a rendez-vous à la préfecture.
Ce mercredi 3 mars, il devrait récupérer son récépissé de droit au travail et d'autorisation à suivre une scolarité. Une fois ses papiers en main, il ira tout de suite s'inscrire au centre de formation à Ambérieu-en-Bugey. Compagnon d'Emmaüs, arrivé en France à 16 ans, le jeune homme aspire à devenir apprenti boulanger. Un projet impossible sans papier. Les propriétaires de la ferme des Pétillères, vers Châtillon-sur-Chalaronne, seront ses maîtres d'apprentissage. Pour appuyer sa demande de papier, la propriétaire s'était mise en grève de la faim pendant 15 jours.
Et quelle nouvelle pour Bilal, autre compagnon d'Emmaüs?
Il est revenu à Bourg-en-Bresse après 15 jours au centre de rétention de Marseille, mais il a toujours l'obligation de quitter le territoire français. Une pétition lancée par Emmaüs Servas est toujours en ligne.
Des fermetures de classes qui ne passent pas dans l'Ain.
Enseignants, élus, syndicats et parents d'élèves étaient rassemblés devant l'inspection académique de l'Ain à Bourg-en-Bresse mercredi dernier. Ils sont contre la fermeture de 23 classes dans l'Ain contre 18 réouvertures pour la rentrée 2021. Les communes de Césérieux et de Nurieux-Volonia sont notamment concernées. Des représentants ont même fait le déplacement jusqu'à Bourg. Le nombre d'élèves passerait de 20 par classe à 25, voire 30 dans certains établissements.
Non, 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 à la fermeture ! Non, 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 à la fermeture ! Non, 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 à la fermeture !
Je suis Isabelle Boulmé, enseignante à l'école de Nurieux-Volonia. Alors aujourd'hui, nous manifestons contre la fermeture de notre 5e classe.
Et pourquoi c'est important que cette classe reste ouverte?
On a un certain nombre d'élèves qui ont été fortement fragilisés au moment du premier confinement. Une fermeture de classe impacterait notamment ces élèves fragilisés par le confinement. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'avec la Covid, la meilleure protection, la meilleure barrière, c'est l'espace. Et c'est ce qu'on peut faire actuellement, espacer les tables, espacer les élèves. Et ce sera moins le cas ou plus le cas avec une fermeture de classe.
Bonjour, je m'appelle Anne-Julie Paricot, je suis parent d'élèves à l'école de Nurieux-Volonia. Ma fille est scolarisée en grande section actuellement. Je suis là en tant que représentante élue au conseil d'école. Nous, en tant que parents d'élèves, on est très inquiets de la fermeture de la 5e classe parce que ça implique l'année prochaine un regroupement de l'ensemble des classes de maternelle de 3 à 5 ans, la petite, la moyenne et la grande section, en sachant que maintenant que j'ai découvert ce que c'était ces niveaux-là, on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes apprentissages, que l'attention demandée par les petits-petits est énorme. Même si les effectifs ne vont pas grimper à 30-31 comme annoncent les collègues sur les autres écoles, on se dit quand même que ces trois niveaux-là n'ont pas à être regroupés pour l'apprentissage des petits. Et puis dans les conditions sanitaires actuelles, on se demande bien comment ça va être gérable pour une institutrice, une ATSEM, de gérer tous ces enfants dans les blocs sanitaires, dans tous les gestes barrières qui ne vont pas disparaître, ça pour sûr, à la rentrée 2021. On est quand même une commune qui est en pleine expansion. Nurieux-Volonia, c'est une commune où on a le TGV pour Paris, pour Genève, donc qui est attractive, avec l'implantation de beaucoup d'entreprises. On est dans la vallée de la plasturgie, donc qui recrute, c'est un secteur qui est vraiment actif, et du coup on imagine qu'il va y avoir des familles qui vont venir s'implanter, que ces familles-là, elles vont avoir des enfants, petits, moyens ou grands, et on va se retrouver avec des classes qui vont être plus chargées, et on se dit qu'à moyen terme, c'est pas une réflexion judicieuse, qu'on va pas pouvoir rendre accessible la réussite à tous, et pourtant c'est pour ça que l'école est là, il me semble.
Tracy Bange, déléguée des parents d'élèves, secrétaire du Sous des écoles à l'école de Césarieux et conseillère municipale à Césarieux. Césarieux est là représenté par des élus, des parents d'élèves et les instituteurs, l'équipe enseignante, pour contester la fermeture de classe qui est annoncée à la rentrée prochaine à l'école de Césarieux. On souhaite que la classe reste ouverte parce que déjà, comme les inscriptions n'ont pas encore eu lieu, donc tous les enfants ne sont pas comptabilisés par rapport à la situation sanitaire actuelle et parce qu'on a encore, nos villages sont en plein développement, donc d'autres enfants vont venir et on veut éviter les classes surchargées à l'école. Actuellement, on passerait déjà à plus de 25 enfants par classe, donc ce qui est déjà beaucoup, sachant que nos locaux ne sont pas adaptés pour en accueillir autant, donc les classes vont vraiment être surchargées.
Donc là, qu'est-ce que vous espérez avec cette manifestation ?
On espère toujours pouvoir être entendu par l'inspection et par le gouvernement et éviter les fermetures de classes comme ça avait été promis par le ministre de l'Éducation nationale.
Bonjour, Amandine Hawk, je suis parent d'élève de l'école de Césarieux.
Et vous avez des enfants scolarisés ?
Oui, donc moi j'en ai déjà un qui est en maternelle, j'en ai une deuxième qui va faire sa rentrée aussi en septembre. Et évidemment, ce que j'apprécie dans ces petites écoles de village, c'est la taille humaine qu'on y retrouve. Et j'ai pas envie que ça change. On est citadins à l'origine et donc on a fait le choix aussi d'être à la campagne pour ça.
Les personnes présentes voulaient un rendez-vous avec l'inspection académique. Seule une visioconférence leur a été proposée, ce qu'ils ont refusé. Une autre commission devrait avoir lieu en juin et l'annulation de la fermeture de certaines classes pourrait être envisagée.
20% d'Iburgiens n'ont pas de médecin traitant.
Un constat qui concerne tout le département. Pour pallier ce manque de praticiens, le département et la CA3B financent une cabine de téléconsultation. Elle est installée à la maison de quartier des Vennes. Elle a ouvert ce 1er mars. Franck Leduc, directeur du développement de H4D, l'entreprise qui commercialise les cabines, nous explique leur fonctionnement. Le patient s'assoit face à un écran où il verra un médecin en visio.
Et on va vous inviter à prendre votre carte vitale et à l'insérer juste devant vous. Vous avez un office qui est prévu pour la carte vitale et qui va permettre effectivement de déclencher la consultation à distance. La carte vitale va permettre d'être repérée par le médecin et la consultation va pouvoir commencer. Le médecin va vous interroger, va vous dire qu'est-ce qui vous amène. Et ensuite, le médecin va vous inviter à procéder à l'examen clinique au travers des dispositifs qui sont implantés tout autour de lui, qui vont de la tension artérielle, donc avec un brassard dédié, la prise de température avec un outil qui est un dispositif qui est prévu pour être placé juste à votre tempe. De l'autre côté, vous avez la possibilité d'utiliser le dermatoscope pour inspecter votre peau, l'otoscope pour inspecter vos oreilles et votre gorge, et le fameux stéthoscope pour inspecter les bruits du corps, vérifier. Et tout ça sous l'autorité du médecin. Et une fois que la consultation est terminée, donc avec l'interrogatoire et l'examen clinique, eh bien le médecin est en mesure à distance de pouvoir établir un diagnostic en bonne et due forme. Et ce diagnostic, soit des salles d'urgence, c'est la télémédecine ou pas télémédecine, c'est le service des urgences, soit il va vous guider vers la médecine de spécialité, parce qu'il va juger nécessaire effectivement de vous amener vers la spécialité, ou soit, la très grande majorité des cas, eh bien il va faire comme n'importe quel médecin dans son cabinet, vous prescrire une ordonnance, et l'ordonnance, vous la récupérez dans la cabine directement, et vous pouvez aller ensuite en pharmacie. Alors vous récupérez non seulement l'ordonnance, mais vous récupérez vos constantes, c'est-à-dire les prises qui ont été faites par les dispositifs médicaux, comme la température, la taille, le poids, l'IMC, pas la consultation en elle-même, ça c'est le secret médical, et vous repartez avec ces deux éléments-là.
Les médecins à l'écran sont le plus souvent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette cabine permet surtout de faire des consultations de dernière minute. Les rendez-vous sont pris moins de 72 heures à l'avance. Le docteur Lacombe, président du Conseil de l'Ordre des médecins dans l'Ain, était présent à l'inauguration de cette cabine.
Mais c'est un bel outil. Et c'est un outil qui doit être utilisé à bon escient, c'est-à-dire quand il n'y a pas de médecin traitant, quand il n'y a personne, et savoir aussi connaître les limites de cet outil. C'est-à-dire que si jamais on a une pathologie qui persiste, il faut retrouver soit la télécabine, soit le médecin traitant. C'est un outil, c'est un bel outil, il faut l'utiliser comme il se doit. On préférerait que chaque personne puisse avoir son médecin traitant, qui est 100% de médecin traitant. Ce n'est pas le cas, mais il faut s'adapter et il faut trouver des solutions pour s'adapter.
Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse et le président de la CA3B, se satisfait de l'installation de cette cabine qui rend l'accès aux soins plus simple pour certains burgiens.
C'est très difficile de trouver un médecin traitant lorsque l'on vient d'arriver à Bourg-en-Bresse ou dans une autre ville, tout simplement parce que les médecins ne prennent plus de nouveaux patients en médecin traitant. Et ils vont s'adresser au Conseil de l'Ordre pour pouvoir avoir un référent. Mais là, ils peuvent avoir une consultation et donc répondre à leurs besoins médicaux. C'est un des éléments de la politique de démographie médicale que nous menons au niveau de la communauté d'agglomération. L'autre, c'est la création de maisons de santé. C'est également les aides à l'installation de médecins, en lien aussi avec le département, puisque nous avons choisi de travailler au-delà de tous nos clivages politiques, de manière main dans la main avec le département de l'Ain sur cette opération, qui est d'ailleurs financée à l'équilibre. Le département, avec l'aide de l'État, achète les machines, c'est environ 100 000 euros. Et la ville de Bourg-en-Bresse et la communauté d'agglomération assument 50 000 euros par an de frais d'entretien de la machine et de frais de personnel pour la faire fonctionner. Donc on voit bien que sur deux années, nous financerons l'équivalent de l'achat de la cabine de télémédecine. Mais c'est aussi avec ce partenariat que nous pouvons répondre, ajouter cette pierre à la réponse médicale.
Une autre cabine doit ouvrir à Saint-Julien-sur-Ressouze. En tout, 5 cabines seront installées dans le département de l'Ain. L'État a participé à leur financement. Et pour avoir une téléconsultation, il faut prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Vous retrouverez ces informations sur le site téléconsultation.1.fr. Il y a toujours une personne sur place pour vous accueillir et vous installer. Et la cabine est désinfectée après chaque utilisation.
La région organise des tests PCR pour les lycéens et les apprentis.
Et ils débutent ce 1er mars et se termineront à la fin du mois. 400 établissements participent à l'opération. La région craint que les variants du virus se propagent plus rapidement chez les jeunes. Elle veut donc dépister en masse. L'Académie de Lyon déploie de son côté des tests salivaires pour les écoliers. Ils commencent ce jeudi 4 mars dans 18 écoles tests. Les syndicats de professeurs des écoles sont contre cette initiative et dénoncent le manque d'organisation du gouvernement.
Face à la solitude, le département de l'Ain prolonge son dispositif d'écoute téléphonique.
Et c'est en partenariat avec l'AVEMA, l'aide aux victimes et médiation dans l'Ain. Lancé en novembre 2020, il devait s'arrêter en janvier. Les étudiants, les restaurateurs ou toute personne en situation de détresse peuvent être accompagnés jusqu'en juillet 2021. Il suffit d'appeler le 01 41 83 42 17.
L'invité de Radio B.
Quentin est un jeune bugiste. Aujourd'hui, il est en mission en Antarctique. C'est la 3e fois qu'il y va. Il est technicien polyvalent. En ce moment, il est sur la station franco-italienne Concordia, dans les terres. Tendez bien l'oreille, nous étions au téléphone avec Quentin. Il est à plus de 15 000 km de nous. Il était 17h à Bourg et minuit sur la base antarctique Concordia. Il nous fait visiter les lieux.
Alors déjà, la base, ça ressemble à deux grosses tours. Ça ressemble à deux pots de yaourt au milieu de rien, au milieu d'un désert blanc. Deux pots de yaourt, donc ils sont reliés par un tunnel. Donc il y a une tour où il y a tout ce qui est calme, donc les chambres, les bureaux scientifiques, l'hôpital, des petits magasins de stockage. Et après, il y a une tour qui est bruyante. Et après, tout autour de la base, il y a des conteneurs, des bâtiments scientifiques un peu éparpillés tout autour. Voilà. Du coup, là, on est dans la salle où on mange. Il y a 12 places, comme on est 12 pour l'hiver. On a viré toutes les autres tables. On a pu installer le billard, le baby-foot, la table de ping-pong. Juste à côté, donc, il y a la cuisine avec le petit self, là où on vient manger tous les jours. Sinon, à côté, il y a le salon, donc avec une grande bibliothèque, des tables aussi pour boire l'apéro, faire la fête. Il faut bien de temps en temps un petit peu. Donc ça, c'était tout en haut de la tour bruyante. Donc si on descend d'un étage, il y a 3 étages par tour. Si on descend d'un étage, on a des frigos, là où on met la nourriture, la salle de sport que je n'ai pas trop utilisée pour l'instant, j'avoue. On a une grande salle avec un grand écran où on peut, avec un vidéoprojecteur où on peut regarder des bons films. Ça, j'ai beaucoup plus utilisé par contre. Avec un petit hamac pour la sieste aussi. Très important. Et puis si on descend encore d'un étage dans la tour bruyante, on aura le bureau technique, donc le bureau des quatre techniciens en hiver. Donc là, on est tranquille. Voilà, c'est notre bureau. Donc les quatre techniciens, il y a un chef technique qui est chef de la centrale électrique, un électricien, un mécano, et normalement il y a un plombier, mais que j'ai remplacé, donc je suis plus polyvalent que plombier, mais on fait un petit peu tous le boulot de plombier. Et après, bah, dans la tour, donc je peux pas y aller là, mais c'est la tour calme, ils sont en train de dormir. Donc il y a les chambres, il y a, voilà, il y a l'hôpital, comme je disais, les bureaux des scientifiques.
Et sa première fois en Antarctique, Quentin l'a passée sur la base française de Dumont-d'Urville, sur la côte atlantique. Il a postulé aux offres de l'Institut polaire français, son employeur. Et en ce moment, ils sont 12 sur la base Concordia.
Dans cette base où tu es, qu'est-ce qui s'y passe en fait? Qu'est-ce que font les autres, les gens que tu côtoies?
Les bases en Antarctique, donc c'est toutes des bases scientifiques déjà. Donc l'Antarctique, avec le traité de l'Antarctique, en fait c'est un désert blanc destiné à la science. De plus en plus, on voit un peu apparaître le tourisme, mais c'est encore très très limité. Donc les bases françaises, Concordia d'ailleurs, c'est une base franco-italienne, c'est pas une base uniquement française. Et donc c'est une base scientifique, donc il y a plein de scientifiques. Donc là, en hivernage, on est 12. Sur 12, on est 4 de l'équipe technique. Il y a un médecin, et après, sinon, c'est des scientifiques. Donc il y a pas mal de glaciologues, pas mal de glaciologie, surtout ici. Mais il y a aussi tout ce qui est de l'espace. Donc il y a des télescopes, il y a des choses comme ça, quoi. Et il y a aussi, on a un médecin de l'ESA, donc de l'European Space Agency, qui s'occupe de faire des tests un petit peu sur, sur nous, on est un peu des cobayes, pour voir comment réagissent les gens en milieu isolé et à vivre un peu les uns sur les autres.
Et est-ce que tu peux nous raconter ta journée, soit aujourd'hui, soit une journée type?
Il y a des horaires de travail, donc on commence, donc on petit déjeune le matin à 7h, après à 8h, on commence notre journée. On travaille jusqu'à midi, après on s'arrête pour manger à midi jusqu'à 13h30. C'est des horaires de travail très classiques en fait. Et après, on travaille jusqu'à 17h30, 18h. Et puis on mange à 19h. Et après, dans une journée de travail, alors il y a des tâches qu'on doit répéter régulièrement. Je fais tout le temps un peu la même chose, donc c'est technicien polyvalent, donc je suis chaudronnier de base, donc je soude, je travaille l'acier, l'inox, l'alu, donc je fais toutes pièces possibles, imaginables en ferraille, et puis après je travaille un peu tout, le bois, quand il y a quelque chose à réparer, ils m'appellent, et puis après on a des petits chantiers aussi. Dans les tâches un peu régulières, il y a par exemple remplir le fondoir, pour avoir de l'eau. Donc on prend de la neige qu'on fait fondre et pour avoir de l'eau potable.
Et au niveau donc, des conditions climatiques et des horaires, le jour, la nuit, comment ça se passe?
Alors, encore une fois, là, c'est un peu différent entre la base de Dumont-d'Urville sur la côte et la base de Concordia. Ici, à Concordia, donc, on est beaucoup plus près du pôle sud. Du coup, c'est encore plus accentué le fait qu'il y ait des périodes de jour et des périodes de nuit. Donc pendant l'été, il fait jour tout le temps. Et là, on commence à avoir un petit peu de la nuit. Aujourd'hui, juste avant l'appel, j'ai regardé dehors, je me suis dit, c'est la première fois là, vraiment, où je me dis, là, il fait nuit. Voilà, et donc là, on va aller progressivement vers quelques mois de nuit complète, quoi. Mai, juin, juillet, il fait nuit, quoi.
Comment toi, tu le vis là, d'être tout le temps dans le jour en ce moment?
J'ai préféré être dans la nuit, parce que finalement, le jour, y a le soleil, ok, très beau, il y a des beaux halos autour du soleil, il y a des beaux phénomènes ici, il y a quasiment pas de mauvais temps. Du coup, on voit que le soleil, quoi, et le ciel bleu. Tandis que quand il y a la nuit et qu'il fait noir tout le temps, c'est vraiment magnifique parce qu'on voit la Voie lactée à l'œil nu, mais super bien, vraiment super bien. Il y a les étoiles, le ciel, c'est quelque chose de monstrueux. Et puis bah, en hiver, il y a les aurores australes, c'est vraiment magnifique.
Et au niveau des températures, ça se passe comment ?
À Dumont-d'Urville, la température en hiver, elle descend jusqu'à moins 30. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de vent. On peut avoir des vents jusqu'à 200, 250, même 300 km/h. Et donc là, le froid ressenti et puis la neige soufflée avec le vent, c'est ça qui rend les conditions assez extrêmes. Et par contre, à Concordia, il y a beaucoup moins de vent. Il y a très peu de vent, mais les températures sont beaucoup, beaucoup plus basses. Donc en été, on arrive à des moins maximum moins 25. Et après, en hiver, ça descend jusqu'à moins 80. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais il suffit de très, très peu de vent pour que la température ressentie plonge vraiment, quoi. En ce moment-là, j'ai regardé avant l'appel, il y avait moins 53 en température réelle et à peu près moins 70 en température ressentie.
Et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ?
Énormément. Ah, il y a beaucoup de choses qui me manquent, ouais. Donc, que ce soit la première fois ou quand je reviens en été ou même maintenant, là, c'est que le début de l'hiver, mais ah, il y a bah, déjà les amis, la famille, ça, de temps en temps, ça manque pas mal. Dans ce qui n'est pas humain, il y a déjà la forêt, la montagne. Ici, il n'y a que de la glace, c'est tout blanc. Quand on sort dehors, on a du mal à respirer. Quand on monte les escaliers, on est essoufflé. Donc ouais, le grand air, finalement, ça manque.
Qu'est-ce qu'en Antarctique, le Covid est là ou pas ?
Alors non, le Covid n'est pas là en Antarctique. Alors, il n'était pas là au début de l'été. Je crois qu'il y a eu des cas sur une base chilienne. Mais en tout cas, nous ici, on a complètement oublié ce que c'était que le Covid. Qu'est-ce que c'était qu'un masque, ce que c'était qu'un couvre-feu, un confinement. Enfin, si le confinement, on n'a pas oublié ce que c'était. On est bien confiné. Mais bah ouais, c'est très agréable. Je vous envie pas, quoi, quand même. Je pense que cette année, c'était la bonne année pour hiverner. Tant qu'à faire, tant qu'à pas être en Europe ou ailleurs dans le monde, mais autant ne pas y être quand c'est un peu la merde.
Et Quentin va rester en Antarctique encore pour un moment. Il doit retrouver son budget en février 2022.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ben, ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Alors je me trouve juste au pied du monastère royal de Broux, donc le monastère fermé depuis le deuxième confinement, donc fin octobre. Le rassemblement pour demander la réouverture des lieux culturels est prévu derrière le monastère de Broux. Tout le monde est masqué. Je vais moi aussi mettre mon masque et me rapprocher. Bonjour, donc les Diesel Company, Aurélie et Christine. Il est marqué fermé sur la pancarte comédienne en manque. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment ?
On ne peut pas faire de spectacle, uniquement pour les scolaires. On peut être en création, en résidence de création, mais on ne peut pas partager avec le public.
Bonjour. Alors, vous êtes de quelle compagnie ?
Alors, nous, on est un peu autodidacte et autonome. Hein. On n'a pas vraiment de compagnie. Hein.
Alors, quelle est la situation pour vous en ce moment avec cette fermeture des lieux culturels ?
Ben, déjà, on a beaucoup de problèmes d'inspiration parce que, bon, nous, il faut bien qu'on se nourrisse quelque part. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais la nourriture du clown, c'est la culture aussi. Voilà. Et la culture, c'est l'imaginaire pour nous. Après, nous, on est des élèves encore, alors on gagne pas trop d'argent tout de suite. Hein, mais ça nous pose des questions sur le fait qu'on pourrait devenir pro. Hein, franchement, c'est pas très...
Ouais, donc là, vous êtes en train d'apprendre à être clown.
Mais par contre, si tu veux, ça nous donne quand même beaucoup, beaucoup d'envie de continuer à le faire. Parce que on voit que ça fait du bien. Hein, vous êtes d'accord ?
Oui. Ah, oui.
En quoi c'est essentiel pour le public ?
de donner du plaisir aux gens. Et ça, pour nous, c'est plaisant aussi.
La bonne humeur.
Bonne humeur.
On prend des meilleures décisions quand on est de bonne humeur. Hein. Et du coup, on fait moins de bêtises dans le monde aussi. Tu vois. Et puis on s'enrichit les uns des autres. On se connaît, on s'exprime, on exprime qui on est, quoi. Et ça,
on aimerait continuer à le faire, quoi. C'est quand même quelque chose d'essentiel.
Si la fermeture des lieux culturels se poursuit, qu'est-ce que vous craignez?
Je crains de pas être d'accord. En fait, on craint tout, quoi. On craint pour l'humanité dans l'essence qui fait ce qu'elle est, la culture, quoi.
Bonjour. Vous êtes venu en soutien au monde culturel?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Pourquoi c'était important pour vous d'être présente aujourd'hui?
Parce que pour moi, la culture, c'est la base du savoir. Et mes enfants, aujourd'hui, ils n'ont pas accès parce que tout est fermé, parce que ces gens ne peuvent pas travailler, parce que... Donc, c'est pas normal. On bonde des métros, mais on interdit aux gens d'aller au théâtre alors qu'ils sont assis, qu'ils peuvent respecter les distanciations. C'est pas normal.
Une fermeture qui porte atteinte à l'accès à la culture et renie ses bienfaits. Ce silence-là, c'est celui qu'il faut que nous fassions entendre, nous, spectateurs, responsables de lieux, d'écoles, de pratiques artistiques, de compagnies, d'artistes et techniciens du département de l'Ain. Mesdames, messieurs, je vous remercie.
Vincent Rochelaquet, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse. Donc on s'était... rencontrer, c'était avant les vacances de Noël, avec l'attente peut-être d'une réouverture. On en est où maintenant, le 27 février?
On est un peu nulle part, il n'y a pas beaucoup d'espoir en ce moment. La crainte d'une non-réouverture jusqu'à cet été est vive. Donc on n'a pas beaucoup d'infos, on a eu une information forte sur les festivals de l'été avec les trois conditions, assis, dehors, 5000 personnes maximum. Sur les festivals, les cinémas et les musées, enfin sur les théâtres, les cinémas et les musées, malheureusement pas beaucoup d'infos.
Et donc là pour l'instant la programmation du théâtre annulée jusqu'à la fin mars?
Alors en fait, si on rentre un peu dans le détail, c'est annulé pour le tout public, pour les spectateurs adultes. On continue d'avoir pas mal d'activités pour les écoles. On a beaucoup d'artistes qui répètent pour le moment où ça réouvrira. Mais c'est vrai que pour le tout public, on a tout annulé jusqu'à fin mars. Et on commence à être un peu inquiet, très inquiet pour les spectacles du mois d'avril.
C'est la première fois que le monde culturel indinois se réunit. Pourquoi avoir attendu la fin février pour se rassembler?
Parce qu'on a senti que c'était le bon moment, parce qu'il y a eu l'étincelle à plusieurs fin janvier de se dire il faut qu'on agisse, parce qu'au mois de décembre on avait encore l'espoir de la réouverture du 15 décembre, en janvier on a eu l'espoir de la réouverture du 7 janvier et de la clause des revoyeurs du 20 janvier, et puis fin janvier il y a eu une étincelle dans une discussion à plusieurs, et puis ça a fédéré les énergies, et puis nous voici fin février assez nombreux sur cette prairie derrière Brou.
Et pourquoi donc organiser cette mobilisation aux arrières de Brou? C'est vrai qu'on est plutôt habitué aux mobilisations devant la préfecture de Bourg-en-Bresse.
Parce qu'en fait, on avait besoin d'un espace aéré, grand, pour que tout le monde soit... qu'on respecte complètement les distanciations avec 3 mètres entre chacun, les masques évidemment, la rue devant la préfecture est peut-être moins propice à ça, et puis surtout symboliquement on est derrière un des joyaux du territoire et derrière ce monastère, parce qu'on est, même si ça part aussi grandement du spectacle vivant, on est vraiment tous dans le même lot, y compris nos amis du cinéma et des musées.
Donc premier rassemblement, est-ce que c'est le premier avant d'autres nombreux?
Très très bonne question. On a un bilan de cette action dans quelques jours. On va se poser la question de recommencer, de transformer, de continuer. On a envie de quelque chose de positif, festif et plutôt joyeux. C'est sûr que va se poser la question des prochaines actions. Vu qu'on a quand même la fierté d'avoir réussi à encore une fois fédérer les énergies, je pense qu'effectivement, ce ne sera pas qu'une unique initiative.
Vincent Rochelaquet, merci. Directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse.
Merci beaucoup.
Gilles Garrigos, directeur de la tannerie. Est-ce que vous commencez quand même à préparer la rentrée 2021?
Ouais, complètement.
Si la situation redevenait normale?
C'est ça, pour l'instant, on mise sur un redémarrage des concerts debout en septembre. Donc voilà, il y a des choses qui sont reportées de toute l'année qui vient de s'écouler, Et puis on commence à réfléchir à, malgré tout, à quelques choses à programmer aussi. Ça va beaucoup dépendre de ce qu'il y aura aussi qui tournera, c'est-à-dire quels artistes seront vraiment sur la route. Ça risque fort malgré tout d'être des artistes régionaux ou peut-être d'autres régions de France. Mais par exemple sur de l'international, on est quasiment sûr qu'il n'y aura rien du tout en fin d'année par exemple.
Sylviane Chêne.
Oui.
Donc vous êtes adjointe à la culture,
oui,
de la ville de Bourg-en-Bresse.
Oui.
Pourquoi c'était important pour vous d'être présente aujourd'hui ?
Bien entendu, on respecte les orientations et les consignes sanitaires. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où là, pour le coup, il y a une vraie mise en danger d'un certain nombre de compagnies, d'un certain nombre de productions, d'un certain nombre d'établissements. Et qu'il est temps que cette activité-là soit reconnue dans sa dimension essentielle, comme on a pu l'entendre à certaines reprises, mais aussi économique, mais aussi celle qui crée du lien social. Et ça, c'est important.
Sylviane Chêne, merci, donc adjointe à la culture de la ville de Bourg-en-Bresse.
Environ 450 personnes, selon l'organisateur, le collectif Action Culture de l'Ain, ont participé au rassemblement aux arrières de Brou, samedi dernier, le 27 février. Le collectif participera ce jeudi 4 mars à l'action lancée dans toute la France par le Syndicat National des Artistes Musiciens, CGT. Les acteurs indinois de la culture seront à Lyon, où la mobilisation partira de la halle Tony Garnier à 14h30. Action Culture de l'Ain rejoindra le samedi 13 mars la manifestation burgienne contre la loi de sécurité globale, avec l'objectif de sensibiliser un maximum de personnes. Et à la fin du mois, une réunion sera organisée au théâtre de Bourg entre les différents acteurs culturels. Du côté des élus, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, se mobilise avec près d'une quarantaine de maires. Ils ont demandé à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, d'autoriser des expérimentations de réouverture de lieux culturels. Pour l'instant, la ministre n'a pas répondu à leurs alertes.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h pour un numéro dédié aux droits des femmes. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.